Monseigneur Jean-Louis Belsa, évêque du diocèse de Viviers, vous revenez juste de Lourdes et peut-être que vous allez pouvoir nous raconter un petit peu ce qui s'y est passé. Bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, je reviens de Lourdes. Donc c'était une session de l'Assemblée des évêques de France qui était assez particulière cette année parce que, comme vous le savez, et puis les médias en parlent beaucoup, on a été donc très, très attentifs à la question des victimes de pédophilie suite au rapport de la CIAJ qui est paru. Et donc il y avait cette sidération, surtout du nombre. Donc on a eu, ça s'est déroulé de cette manière-là. Il y a eu d'abord une journée entière pour que chaque évêque puisse exprimer ce qu'il a ressenti avec le rapport de la CIAS, et en particulier ce qui en est ressorti, c'est que beaucoup de gens ont souligné, c'est la sidération du nombre. C'est-à-dire 330 000 ou 340 000 victimes, on n'imaginait pas que l'ampleur du désastre. Quoi, voilà. Donc tout en soulignant aussi que 3% des prêtres et des laïcs avaient commis ces crimes, et que quand même 97% des prêtres et des laïcs avaient des gens très honnêtes, et donc il ne faudrait pas non plus qu'on puisse salir la totalité de l'Église, même si effectivement un c'est de trop. Mais donc on a dit aussi comment on recevait tout cela. On a eu aussi des victimes qui sont à nouveau venues témoigner devant nous, donc leur souffrance. Ce qui m'apparaît avec les victimes, d'ailleurs ceux qui nous écoutent, j'invite vraiment ceux qui ont été encore, qui ont été victimes ou qui seraient malheureusement victimes aujourd'hui, vraiment de venir nous signaler, se voir, et puis de le signaler à la justice aussi, parce qu'il y a une justice en France et c'est fait pour ça. Mais ce qui a été donc très important, c'est aussi d'entendre cette souffrance qui est permanente. C'est-à-dire autant nous, on traite de beaucoup de questions qui sont de l'ordre du passé, 70 ans dans le passé, mais pour les victimes, il n'y a pas de passé, c'est présent jusqu'à leur mort. Et moi, j'ai vraiment senti chez les victimes un présent de souffrance permanent. Voilà, donc c'était la première étape, en fait, de notre réflexion entre évêques.
Une cicatrice qui ne se referme pas, ce que vous avez ressenti.
Non, ça ne se referme pas parce qu'il y a une déshumanisation qui a été produite. D'abord, il y avait la confiance totale dans des prêtres qui s'étaient la plupart incrustés dans des familles. C'était des prêtres, en plus, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, c'est-à-dire qui présentaient bien. Vous savez, un peu comme les escrocs, c'est des gens, par définition, vous n'imaginez pas qu'ils le sont, et ils ne l'affichent pas, et qui, en fait, sont des séducteurs, et donc ont toute une stratégie, donc ils nous ont expliqué, et toute une stratégie d'approche, de rentrer dans les familles, et puis d'enfermer les enfants dans le secret, et donc de leur faire en gros promettre que... Donc tout ça, une espèce d'ambiguïté très forte qui font que des victimes sont enfermées dans le... Dans toute leur souffrance. Donc c'est permanent, quoi, c'est permanent. Et donc à chaque fois qu'elles en parlent, c'est toujours comme s'ils revivaient le présent.
Alors vous disiez aussi la difficulté, c'est de effectivement d'avoir ce décalage entre le passé pour vous, le présent pour eux, et en même temps, est-ce que c'est pas compliqué aussi d'assumer des choses des autres au nom de l'institution de l'Église ?
C'est toute la question, voilà, de beaucoup de prêtres, d'évêques d'ailleurs, puis de laïcs aussi, posent la question de la responsabilité. Vous savez, il y a cette fameuse phrase « je suis responsable mais pas coupable ». On est une famille, donc on hérite aussi d'une tradition de l'Église, on renie pas sa famille. Moi, j'entends ça plutôt sous cet angle-là. On renie pas sa famille, et quels que soient les parents qu'on a pu avoir, bien à un moment donné, on n'en est pas les coupables, mais on reste liés quand même. Moi, donc, de fait, il y a cette solidarité avec des gens pour qui c'est encore le présent. Voilà, qui pour beaucoup sont restés d'ailleurs des chrétiens, ont fait leur chemin dans l'Église, quoi, aussi, et donc de pouvoir manifester qu'au fond, on ne se désolidarise pas des côtés noirs de la famille. Notre famille, elle a, dans toutes les familles d'ailleurs, il y a des choses qui sont pas, il y a même des secrets de famille parfois, mais de pouvoir assumer cela. Alors après, la limite, c'est de pas non plus faire un télescopage ou de faire un anachronisme en pensant qu'aujourd'hui c'est la même chose qu'hier, quoi. Surtout que, on en reparlera tout à l'heure, tout ce que nous essayons de développer aujourd'hui pour que justement des pédophiles, il y en aura toujours. il y en aura toujours. Par contre, que l'église soit pas un lieu, un refuge commode pour qu'ils aient de la chair fraîche, excusez-moi l'expression, ça c'est le rôle maintenant du présent et de l'avenir. Voilà. Mais donc, ce qui est difficile à vivre, c'est cet anachronisme avec des personnes qui, elles, pour elles, c'est un présent définitif. Et donc de pouvoir aussi être solidaire de ces victimes, parce que pour elles, elles sont abîmées à vie, elles sont traumatisées à vie, et il y a quelque chose qui est irréversible, qui n'est pas réparable.
Alors, le diocèse de l'Ardèche n'avait pas attendu le rapport de la CIAS pour mettre en place des événements. Vous avez fait plusieurs soirées dans le département, on en avait parlé la dernière fois, mais je crois que depuis, vous êtes allé retrouver chacune des paroisses.
Alors, j'ai commencé à le faire, et donc je vais continuer à le faire, donc avec les curés. On organise une parole libre, parce que beaucoup de chrétiens ont dit qu'ils ont besoin de parler. Les textes officiels, ou les textes des journaux, ou les prises de position... C'est une chose, mais que les gens aussi puissent exprimer en fait ce qu'ils ont sur le cœur. Voilà, parce qu'eux-mêmes l'ont pris dans la figure, cette affaire-là. Il y en a qui doutent même des chiffres, hein, parce que c'est une extrapolation arithmétique, mathématique. Mais de toute façon, de pouvoir parler ensemble, en famille justement, de questions de famille. C'est-à-dire que le linge sale, on le règle aussi en famille. Et puis de pouvoir se dire les choses, et à la fois notre espérance dans l'Église. C'est-à-dire à la fois, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui découvrent, qui sont stupéfaits. Beaucoup de gens m'ont dit, moi le premier d'ailleurs, j'ai rencontré que des prêtres honnêtes, des laïcs honnêtes dans ma vie, moi j'ai jamais vu ça, quoi. Donc de pouvoir analyser aussi le phénomène, parce que de fait, dans les temps passés, s'il y a eu autant de victimes, même si on peut chipoter sur les chiffres, mais une, ce sera toujours de trop, mais s'il y a eu autant de victimes, c'est qu'il y a eu quand même une omerta extrêmement importante, et pas que des évêques, pas que des prêtres, mais aussi des familles, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'ose pas dire, on ne peut pas dire, on ne sait pas dire? Ça, il faut qu'on en parle entre nous. Justement, pour le présent, pour l'avenir, parce qu'on ne refera pas le passé, mais on ne va pas régler notre compte avec le passé, mais aujourd'hui, on a la responsabilité de faire que jamais plus l'Église soit le lieu où des choses se produisent, parce qu'on aurait un comportement tel que des prédateurs en profiteraient.
Et là, vous sentez dans le tour des paroisses que vous avez commencé que, effectivement, la parole se libère, les gens ont vraiment besoin de parler.
Oui, tout à fait. Et moi, j'admire, c'est le sens de l'Église, des chrétiens et des prêtres. Donc d'abord, cet amour de l'Église. Des gens ont besoin de parler parce qu'ils tiennent à l'Église, ils tiennent à cette famille, à cette belle famille qu'est l'Église. Et donc, il y a des paroisses où ça a déjà commencé. C'est vraiment des paroles à la fois de souffrance et en même temps de gens qui essayent de comprendre, en fait, et qui essayent de comprendre vraiment comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer. Et on est éclairé aussi par des victimes, hein, qui se manifestent parfois dans des soirées. On a la cellule d'écoute aussi qui est là, avec le père Béchera, et de gens qui ont vraiment besoin de cette parole. Et puis c'est un échange entre eux, entre nous. Moi, je suis comme baptisé aussi. Hein, et donc de pouvoir être sûr aussi que leur évêque fait tout aujourd'hui pour essayer de comprendre avec eux. Donc on est quand même sidéré. Et en même temps que aujourd'hui, dans l'avenir, ce ne soit jamais plus le cas. En tout cas, ce ne soit pas notre faute si jamais il se produisait quelque chose, quoi.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, hey, amen. Hey. Like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death and good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death and good God, let me give you my life. the good times. My lover's the sunlight to keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get something shiny, something needy for the main chorus. It's a fine looking horse. What you got in the stable? We've a lot of starving faithful. That looks tasty.
RCF.
Alors, un autre sujet complètement différent. Il va y avoir quand même quelque chose d'assez nouveau. À la fin du mois de novembre, on parle du nouveau missel romain. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Évidemment que oui, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, alors effectivement, j'en ai entendu parler. D'abord, il y a presque 15 ans que ce missel est en cours de traduction. Donc, moi, je suis évêque depuis 7 ans maintenant ici. Mais de fait, dès que j'ai été nommé évêque à Lourdes, là, puisque ça serait en assemblée, on a entendu parler de ce missel. On nous a même envoyé des copies pour rectifier certaines formules de certaines prières. Et comme moi, je suis un peu plus spécialisé sur le mystère de la Trinité, de Dieu, du Dieu trinitaire, de l'amour trinitaire, j'ai regardé plus spécialement les prières qui concernaient la fête de la Sainte Trinité. Voilà. Mais donc, effectivement, c'est un missel nouveau. Pourquoi ce missel? C'est parce qu'à un moment donné, c'est la grande tradition de l'Église que l'usage fait que des missels, il y en a eu dans l'histoire de l'Église, hein, depuis 2000 ans. Il y a eu énormément de missels, parfois des missels locaux. Certains peut-être se souviennent du rite lyonnais ou du rite mozarabe en Espagne. Bon, il y a beaucoup de rites qui, voilà. Le concile de Trente a unifié un peu tous ces rites, a commencé à essayer d'unifier, et a lui-même donc produit une messe qui est le rite de Saint-Pie V, et qui lui-même a évolué, parce que beaucoup d'évolutions sont faites dans ce rite. Et donc c'est la grande tradition de l'Église d'une évolution, parce que, non pas qu'on s'adapte du tout au temps actuel, mais c'est surtout qu'on affine petit à petit le sens de la foi, le sensus fidei, et que, comme on a affaire à des traductions, c'est toujours imparfait, une traduction, et donc petit à petit on se rapproche. Alors aujourd'hui, donc, on avait, depuis le Concile Vatican II, en langue française, hein, le missel dit de Paul VI, voilà, qui en fait a été stabilisé dans les années 70, après pas mal de déchets, de recherches. Le texte original de ce missel est en latin, en fait. La langue normative, c'est le latin. Et à partir de là, donc des traductions françaises, la traduction française avait été faite. Il s'est avéré qu'à l'usage, à la fois pour la compréhension spirituelle et aussi la compréhension théologique, un certain nombre de points sont apparus comme étant pas justes ou pas très ajustés. Et d'où la nécessité, demandée par Rome, par le pape, de constituer la traduction en français d'un nouveau missel, comme dans les autres langues d'ailleurs. Voilà, donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Une commission francophone a été réunie. Ce qui n'est pas simple, c'est qu'il y a la France, il y a le Canada, il y a la Belgique, la Suisse et tous les pays africains. Et les pays comme Haïti ou d'autres qui parlent le français dans la langue. Voilà. Donc ce sont des cultures aussi différentes. Donc il a fallu beaucoup travailler. Et donc, en fait, le principe de ce texte, c'est surtout une fidélité plus grande au latin, au texte originel, que tel qu'il a été voulu par le Concile, en fait, après le Concile, puisque c'est après le Concile que ça a été établi. Et donc, une fidélité plus grande et au latin, et à la langue latine, et en même temps à la théologie. Par exemple, je prends un exemple, dans le Credo, il y a un terme extraordinaire qui va apparaître. Alors, évidemment, ça fait très très peur pour les nouveaux traditionalistes, parce que vous savez qu'on va avoir des nouveaux traditionnalistes de l'ancien missel de Paul VI. Ben oui, qui vont dire « Ah non, non, on ne veut pas changer ». Donc ils vont faire comme certains ne veulent pas changer les missels antérieurs, etc. Mais par exemple, dans le Credo, le terme consubstantiel va apparaître à la place de même nature que le Père. Vous savez qu'on dit donc de même nature que le Père, en parlant de Jésus-Christ, du verbe exactement, et par lui tout a été engendré, voilà. On va dire consubstantiel. Alors, les gens pourraient se dire, oui, bon, on chipote, non. Par exemple, c'est important, par rapport au rapport avec Dieu, de ne pas considérer que nous avons deux dieux, mais un seul Dieu. Et que du coup, ce qui va primer, en fait, c'est l'unité divine. Pour un certain nombre de gens, de dire de même nature que le Père, c'est le signe qu'en fait, ceux qui m'écoutent et moi-même, nous sommes de même nature, nous sommes de nature humaine. Pourtant, on n'est pas le même individu, nous sommes des individus différents. Si on dit ça du père et du fils, ça veut dire que ce sont des individus différents. Ce ne sont pas des individus différents, le père et le fils. Alors, je ne vais pas faire un cours de théologie ici, mais ça nous ramène, en fait, plus spirituellement, à considérer Dieu comme une seule unité qui n'est pas composée de deux individus, voire de trois individus, mais une seule unité. Alors, à partir de là, évidemment, il faut réfléchir. Mais c'est très, très important parce que consubstantiel, c'est-à-dire que substantiellement, c'est la même réalité divine. Voilà. Alors, du coup, ça nous introduit aussi dans cette réalité chrétienne. Nous ne sommes pas des musulmans, nous ne sommes pas des déistes, nous ne sommes pas des, même des juifs. C'est-à-dire, on ne croit pas en un dieu monolithique ou un dieu qui serait séparé en plusieurs personnes. Alors, je dis cela parce que, je termine là-dessus, je dis cela parce qu'un certain nombre de chrétiens, il faut qu'on s'entraide mutuellement à faire que beaucoup de gens ne sont pas aperçus, par exemple, qu'à la messe, on ne prie que Dieu le Père. Sauf à deux exceptions près, on s'adresse au Jésus-Christ, mais on est une prière uniquement au Père. Il y a un certain nombre de gens qui pensent à Jésus en disant notre Père, ou ils ne s'aperçoivent pas. Mais donc, il y a aussi de pouvoir profiter de ce qu'est Dieu, qui a voulu nous faire partager sa divinité, pour qu'on devienne comme lui. Et devenir comme lui, ce n'est pas uniquement comme ça être Dieu. C'est Dieu d'une certaine manière, et je prends juste cet exemple. Donc il y a d'autres exemples à prendre dans la messe, mais c'est un affinement, et ça va nous obliger surtout à reconsidérer l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que la messe, finalement? Parce qu'on est tellement habitué à la dire qu'on n'écoute plus. Nous-mêmes, des fois, il nous arrive de la dire, on ne sent pas vraiment ce qu'on dit, puis on peut penser autre chose en même temps, puisqu'on connaît par cœur les choses. Donc ça nous invite à revenir à l'essentiel de la messe.
Et vous, en tant qu'expert de la Trinité, et puis en ayant vu arriver ce missel depuis 15 ans, vous êtes plutôt satisfait de la façon plus fine dont est traduite cette foi?
Alors, satisfait, oui, et en même temps, il faut faire un effort de présentation, parce que en revenant à des choses plus fondamentales, théologiques, évidemment, c'est pas habituel dans la vie de l'Église. Donc, il peut avoir aussi une résistance de gens qui comprennent pas pourquoi on chipote, mais ça vaut le coup vraiment de prendre ce prétexte-là, d'abord pour s'attacher à ce qui a changé. Et si ça a changé, c'est pas pour le plaisir de changer. C'est pas beaucoup, d'ailleurs, qui a changé. Mais c'est surtout pour rentrer un peu mieux dans le mystère de Dieu qui est infini. This is hungry work. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the deathless death and good God, let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the deathless death and good God, let me give you my life. No masters or kings in the ritual.
RCF. Alors, pour changer un petit peu de sujet, 2022 sera une année électorale, l'élection présidentielle. On sait que l'Église, et notamment la Conférence des évêques de France, a régulièrement pris la parole, notamment à chaque élection présidentielle. On se souvient de Qu'as-tu fait de ton frère, par exemple. Est-ce que vous pensez que l'Église a sa place sur la place publique concernant l'élection présidentielle?
Oui, alors, évidemment, bien sûr, parce que nous sommes des citoyens. Hein, donc ça, c'est important. Et si on revient d'ailleurs à Jésus-Christ, lui-même a été convoqué à un procès religieux et à un procès politique. Il a eu deux procès, donc un devant l'Empire et un devant les instances religieuses du moment. Donc ça veut dire qu'on est en fait une religion, une église d'incarnation, et on n'est pas relégué à des sacristies ou à rester dans des cercles fermés spirituels, comme si en fait la vie du monde et la vie de la société ne nous intéressait pas. Donc non seulement parce que nous sommes des citoyens, mais surtout parce que Dieu a voulu intervenir dans le monde et donc a bousculé le monde. Hein. L'Empire romain a été quand même profondément déstabilisé et reconstitué avec la foi chrétienne, la foi judéo-chrétienne plus exactement. Et donc c'est un modèle. Alors le christianisme n'est pas un modèle en tant que tel, mais influe dans l'incarnation même de la société et de la présence de Dieu dans la société. Donc c'est pour ça que les élections qui vont venir, comme toute élection, fait que l'Église, alors quand je dis l'Église, c'est l'ensemble de la communauté chrétienne, doit pouvoir se retrouver elle-même pour s'éclairer mutuellement dans nos consciences, non pas de ce qu'il faut voter, hein, parce que là c'est la conscience de chacun qui est libre, mais qu'elle soit éclairée par l'Évangile et par le dialogue entre nous. Parce que le Saint-Esprit, en fait, qui est la troisième personne de la Trinité, comme vous le savez, chers amis qui écoutez cette émission, eh bien le Saint-Esprit parle à travers chacun d'entre nous. Et donc il faut qu'on puisse à la fois ce que nous pensons dans notre esprit à nous, mais de pouvoir aussi se laisser éclairer par l'Esprit de Jésus-Christ, et ça c'est en le partageant. Après, chacun dans sa conscience, dans l'isoloir, votera pour qui il voudra, mais qu'entre nous, en amont, on ait pu se redire, au fond, être fidèle à Jésus-Christ, c'est être fidèle à quoi exactement, par rapport aux autres, par rapport à Dieu, par rapport aux étrangers, par rapport à la vie citoyenne, par rapport à la morale, par rapport à l'évolution de la société, par rapport à un certain nombre de choses dont on ne peut pas prendre en compte comme ça, de manière cash, quoi, comme un chèque en blanc, mais où notre lien au Christ fait que, d'une certaine manière, il y a une certaine vision de l'être humain, une certaine vision de la vie communautaire, voilà, que dont on doit pouvoir partager entre nous. Donc, avant les élections, dans le diocèse de Viviers, on va organiser des rencontres entre chrétiens pour partager tout simplement ce que l'Esprit Saint nous souffle. Pas uniquement nos opinions personnelles, moi j'en ai aussi, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit, en fait, à quoi faut-il être attentif venant de Jésus-Christ et de son Esprit Saint.
Donc on en parlera un peu plus peut-être la prochaine fois, ça sera plus en détail.
Ben oui, puisque pour l'instant on n'a pas commencé le dialogue, donc voilà. Donc pour l'instant on est en dialogue plutôt avec les chrétiens sur ce drame qui nous a touchés et pour l'avenir qui, j'espère, disparaîtra. En tout cas, que l'Église soit pas le lieu où on cache et on se cache, ou que certains, dans le lieu dans lequel ils se cachent pour pouvoir faire des crimes.
Monseigneur Jean-Louis Balsat, évêque du diocèse de Viviers, au mois prochain.
Oui, alors au mois prochain, j'encourage vraiment tous les chrétiens qui m'écoutent là, à accueillir ce missel, et puis à pas hésiter à poser des questions. Vous aurez d'ailleurs un petit fascicule qui vous permettra de suivre ce que vous avez à dire comme prière en réponse au dialogue avec le prêtre, et vous verrez aussi ce que le prêtre dit lui-même pour que vous rentriez dans sa prière, puisque sa prière c'est la nôtre, et c'est nous tous qui célébrons l'Eucharistie, prêtres et laïcs, donc chacun pour sa vocation, comme ça on pourra vraiment rentrer là-dedans, et puis aller vers Noël de manière sereine, pour pouvoir, car la lumière va grandir à nouveau avec le solstice d'hiver, et bien que ce soit surtout la lumière du Christ qui grandisse à partir de sa naissance sur notre terre.
Un grand merci. Thank you.